le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture en ce dimanche matin. Nous recevons aujourd'hui Philippe de Paul, pasteur de l'église évangélique libre de France à Deuil-la-Barre. Il est accompagné pour les lectures par Marjorie Legendre, pasteur stagiaire de l'église évangélique libre à Paris, Alésia. Riche pour Dieu, c'est le titre de la méditation qu'il nous propose.
Bonjour. Le texte proposé pour ce dimanche, en pleine période de vacances, n'est peut-être pas le plus joyeux. Il s'agit de la parabole de l'homme riche qui meurt en pleine nuit. Il va cependant sous-tendre notre temps de culte ce matin, avec des textes qui seront comme autant d'échos à ce texte biblique. Un texte biblique qui résonne de façon particulièrement pertinente dans un monde dominé par une économie de marché exponentielle. Ce sont les vacances, alors bienvenue au village. En 1990, Donella Meadows avait publié un article en anglais intitulé « Rapport sur l'état du village ». Dans cet article, il s'agissait de représenter la répartition de la population mondiale en prenant l'échelle d'un village de 1000 habitants. Alors depuis, l'idée a été reprise, réduite à un village de 100 habitants et mise à jour. Ainsi, aujourd'hui, notre village mondial se composerait comme cela.
60 Asiatiques, 14 Américains, 15 Africains et 11 Européens. Il y aurait autant de femmes que d'hommes, 26 seraient des enfants et 8 des retraités. Concernant la religion, il y aurait 33 chrétiens, 22 musulmans, 14 hindous, 7 bouddhistes, 12 qui pratiquent une autre religion et 12 autres sans religion ou athées. Du point de vue de la santé alimentaire, 21 seraient en surpoids, 13 mangeraient à leur faim, 50 ne mangeraient pas régulièrement, 15 seraient sous-alimentés, 1 serait en train de mourir de faim. Enfin, concernant la répartition des richesses, la moitié du village vivrait avec moins de 2 dollars par jour. 20 personnes se partageraient 1% des richesses totales, 74 personnes en posséderaient 39%, et 6 personnes posséderaient 60% de la richesse du village. Une seule personne serait considérée comme riche. Elle posséderait à elle seule 50% du village. C'est sûrement d'elle qu'il sera question dans la parabole de Jésus. Enfin, 20 personnes consommeraient les 80% des énergies du village. 80 personnes se partageraient les 20% restants.
Si vous avez de la nourriture dans votre frigo, des habits sur vous, un toit sur votre tête et un endroit pour dormir, vous êtes plus riche que 75% des habitants du village, et donc de la terre. Si vous avez de l'argent à la banque, dans votre portefeuille, et de la monnaie dans votre porte-monnaie, vous faites partie des 8 personnes les plus privilégiées du village. Si vous avez une voiture, vous faites partie des 7 plus riches. Alors maintenant, vous savez où vous situez dans le village mondial. Bienvenue au village. Nous allons vous conter l'histoire d'un autre village.
Sur d'innombrables vies, je suis perdu. perdu au milieu de la foule. Me vois-tu ? Poussière parmi des milliards de poussières, je me tiens nu devant toi. Si petite et futile que je sois, regarde-moi. Avec honneur, abaisse-toi. Et de ta grandeur, couvre-moi. Précieuse poussière.
C'est l'histoire d'un autre village. La cité des puits, qu'on l'appelait, puisqu'elle était habitée par des puits vivants, des puits vides, qui se sont progressivement remplis de choses.
Certains se sont remplis de bijoux, de pièces d'or et de pierres précieuses. D'autres, d'appareils électriques et mécaniques. D'autres encore, préférant l'art, se sont remplis de peintures, de grands pianos et d'œuvres sophistiquées d'art moderne. Enfin, les intellectuels se sont remplis de livres. La majorité des puits s'étaient tellement remplis qu'il n'y avait plus de place pour quoi que ce soit d'autre. L'un d'entre eux eut alors l'idée de s'élargir, pour pouvoir recevoir plus de choses. Et les autres se sont vite mis à le copier. Les puits dépensèrent beaucoup d'énergie à se rendre plus larges, afin de faire plus de place à l'intérieur pour accueillir toujours plus de choses.
Un petit puits, vivant à l'extérieur de la ville, regardait ses amis qui se rendaient de plus en plus larges. Il se dit que s'il continuait de devenir aussi gros, on ne pourrait plus savoir où terminent les uns et où commencent les autres. Il avait réfléchi à une toute autre façon de faire pour augmenter sa propre capacité. S'étendre en profondeur, dans le sol plutôt qu'en largeur. Mais tout ce qu'il gardait à l'intérieur de lui l'empêchait de creuser. S'il voulait aller plus profond, il devait se vider de tout son contenu. Au début, il avait peur. Mais comme il n'y avait pas d'autre moyen, il se mit à se vider.
Bien sûr, les autres puits en profitèrent pour s'emparer de tout ce dont il se débarrassait. Mais voilà qu'un jour, le puits qui creusait vers le bas eut une grosse surprise. Car à l'intérieur, tout au fond, il trouva de l'eau. Le puits commença alors à jouer avec cette eau qui s'infiltrait par le fond. Au bout d'un moment, ses parois étaient complètement trempées, tant et si bien qu'il finit par éclabousser ses bords pour finalement laisser jaillir l'eau à l'extérieur du puits.
Le sol qui entourait le puits, revivifié par l'eau, commença à revivre. Les semences germèrent en herbe, en arbres et en fleurs. Tout le monde lui demanda comment il avait accompli un tel miracle. Beaucoup voulaient imiter le petit puits, mais bien vite ils laissèrent tomber l'idée quand ils se rendirent compte que pour aller plus profond, il fallait d'abord se vider de ce qui les encombrait.
Ce matin, nous vous invitons à faire le vide, pour laisser l'eau de la parole vous rafraîchir.
Esprit de Dieu, viens, parle-moi.
Lecture de l'Évangile selon Luc au chapitre 12, les versets 13 à 21. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, commande à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répond, « Je ne suis pas là pour juger vos affaires ni pour partager vos richesses. » Ensuite, Jésus dit à tout le monde, « Attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. »
Alors Jésus leur raconte une histoire. Un homme riche a des terres qui produisent une bonne récolte. Il se demande, « Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. » Alors il se dit, « Voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, « Mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir ?» Jésus ajoute, « Voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. »
Une question de gestion d'héritage entre deux frères à laquelle est accrochée une parabole. Non pas celle du fils prodigue, mais celle moins connue du riche égoïste. Un homme qui a tout prévu, sauf sa propre mort. Il s'attendait à gagner toujours plus, mais il va tout perdre et rester avec moins que rien. Une parabole terriblement actuel au point de se demander si ce n'était pas tout compte fait une prophétie annonçant notre monde moderne. Chaque jour, les nouvelles nous proposent un nouveau nom pour cet homme qui a pour devise « Mon ami, tu as beaucoup de richesses pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, amuse-toi ». Autant de richesses dont nous aimerions bien partager l'héritage, histoire de nous aussi avoir notre place au soleil. La parabole de Jésus dit ce qu'il y a au fond du cœur de l'homme. Comme nous le dit cette autre histoire, d'un autre village encore.
Un homme arrive dans un pays jusque-là inconnu. Il est accueilli par le chef qui lui propose de s'installer chez eux. Son « chez lui » sera défini par la coutume locale, à savoir que tout le terrain que l'homme aura englobé pendant une journée de marche lui appartiendra en propre. Il y a cependant une condition. Il doit être de retour à son point de départ avant le coucher du soleil. Le lendemain, au lever du soleil, notre homme se met en marche. Au bout de 3 heures, il s'arrête à l'ombre d'un grand arbre pour souffler. Il avait déjà couvert un bon bout de terrain. S'étant reposé suffisamment, il poursuit son chemin vers une source d'eau. Le soleil tapait dur et il put ainsi se rafraîchir. Il fit ensuite le tour d'une forêt et d'une colline et commença à penser au retour. Sur le chemin du retour, il aperçoit cependant un grand lac magnifique. Il hésite, mais se dit qu'il a bien le temps d'en faire le tour. Puis, un peu plus tard, il voit encore un grand champ de blé, et il en fait le tour, aussi. Mais voilà que ses jambes commencent à se faire lourdes, et le soleil commence à rougir à l'horizon. Il lui faut absolument revenir au point de départ. Exténué, jamais il n'aurait pensé en partant ce matin qu'il aurait pu être aussi difficile de simplement mettre un pied devant l'autre. Le chef, lui, regarde le soleil tout rouge qui commence à disparaître derrière la mer. Il voit aussi un petit point qui grossit vers eux. Et dans un effort suprême, au bord de l'épuisement, notre homme se jette aux pieds du chef, juste avant que le soleil ne disparaisse complètement. « Bravo, tu as gagné vraiment beaucoup de terre !» dit le chef à notre homme étendu par terre. Mais l'homme n'y voyait plus grand-chose. Il eut juste assez de force pour murmurer « J'ai tout donné. » Et ses yeux se sont fermés à tout jamais. Le chef dit alors « Enterrez-le dans le petit carré de terre en friche, avec les autres, tous ceux qui ont essayé avant lui. »
Un carré de terre dont on fait le tour en à peine 10 minutes. Voilà ce pourquoi il avait tout donné. Jésus ajoute à la fin de la parabole, « Voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. »
Insensé, cette nuit je vais te reprendre ta vie. C'est ainsi que rendent les anciennes traductions. Insensé, c'est quelqu'un qui a perdu le sens. En l'occurrence ici, c'est quelqu'un qui ne va pas dans le bon sens. Voilà un homme qui vit en se tuant au travail, et quand il choisit de se laisser vivre, il meurt. Ses affaires marchaient bien jusque-là, mais voilà qu'il rate la dernière marche.
Cette parabole nous pose la question du sens de la vie. Se demander quel sens peut bien avoir ce que nous faisons de notre vie, c'est se demander si ça tourne. Et chacun son petit manège, chacun se ménage une place dans la ronde, ça ronronne. Pour l'insensé qui ne tourne pas rond, sa vie est centrée sur son nombril. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Philosophie de la vie que le sage résume ainsi. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Pour le riche insensé, c'est pas demain, mais le soir même. Insensé, cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Il pensait avoir beaucoup, maître de tous ses biens. Il ne possède même pas sa vie. Elle lui est reprise. Sa vie n'est qu'un contresens. Sa mort est un non-sens. Quel sens a la vie? C'est une question de bon sens, mais elle nous fait tourner en rond, comme dans le sketch de Raymond DeVos. C'est comme si nous étions coincés dans un sens giratoire, un rond-point dont on n'arrive plus à sortir et qui nous fait tourner bourrique jusqu'au point final. Toutes les voies pour échapper à ce manège ne sont finalement que des sens interdits. La route de notre vie devient routine. Jusqu'au jour où on tombe en panne de sens. C'est l'impasse. Le non-sens de la vie devient absence de vie. Insensé. Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? Y a-t-il une issue qui ne soit pas un sens interdit? À bien y réfléchir, un sens interdit, pris par un bout de la rue, est tout simplement un sens unique pris par l'autre bout. Si on tombe sur un sens interdit, c'est qu'on a pris la route par le mauvais bout. On est dans le mauvais sens. Et la vie n'a alors pas de sens. Mais si on passe par l'autre bout, ça devient un sens unique. La vie prend alors tout son sens. Mais quel est ce chemin à sens unique qui nous permet de sortir de ce rond-point absurde et sans fin? C'est le chemin de la croix. Un chemin qu'a ouvert Jésus. Un chemin que nous devons suivre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix.
Jésus utilise ici une image qui relève du sens commun de l'époque. En effet, quand on voyait quelqu'un porter sa croix, on savait qu'il avait pris un aller simple. Oui, celui qui porte sa croix va à sa mort. On ne le verra pas faire le chemin en sens inverse. Porter sa croix, c'est ainsi s'engager dans un sens unique. C'est Jésus, le sens unique. Lui seul, qui peut me sortir des sens interdits. Lui seul, qui peut donner un sens à ma vie. Ainsi, le soir, je peux me coucher sans m'angoisser à me demander « qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. » J'ai bien assez de place dans ma vie pour le Christ. Pas besoin d'agrandir mes greniers, le Christ me demande de faire le vide, pour lui laisser toute la place, afin que je vive. Amen.
Renonce à lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. Celui qui veut à tout prix garder sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quelqu'un veut marcher avec moi. Si quelqu'un veut marcher avec moi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. Même si on parvenait à posséder le monde entier, ce ne serait d'aucun profit s'il fallait le payer de sa vie. Si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Si quelqu'un, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un.
Notre intercession sera la prière de Michel Coist, adaptée à la thématique de notre culte. Elle s'intitule « Une limonade pour deux ». Michel Coist part d'une expérience de la vie quotidienne pour aboutir, alors non à une parabole, mais à une prière que nous faisons nôtre.
Il a demandé « Une limonade pour deux, s'il vous plaît. » Et le garçon de café a répondu « Chacun doit prendre une consommation. » Ils se sont regardés, elle et lui. Il a hésité, puis résigné à commander deux limonades. Une limonade pour deux, c'était leur mot à eux. Mais d'autres mots, si souvent lus, si souvent entendus, et si souvent enfouis, oubliés, se sont réveillés en moi. Un litre d'eau polluée pour une ou 10 familles. Un sac de blé ou de riz pour un village entier. Une école pour toute une région. Un hôpital pour tout un territoire. Une université pour toute une nation.
Un. Toujours un. Pour 10, pour 100, pour 1000, pour 10 000. Tandis que d'autres ont 10, 100, 1000 pour un. Et tout au bout de ces chiffres, l'addition. Et le compte juste, terriblement juste. Et des milliers d'hommes les lisent et disent « Le compte est bon ». Et ce compte, ces chiffres, ce sont des hommes. Des centaines de millions d'hommes qui meurent et ne devraient pas mourir.
Ce sont des centaines de millions d'hommes qui voudraient te connaître davantage, Seigneur. Toi qui as dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Qu'on ne me fasse pas croire qu'il s'agit seulement de la vie de leur âme, comme si ta vie pouvait fleurir sur un tas de cadavres. Comme si tu n'avais pas dit à tes apôtres « Donnez-leur à manger » et à la foule « Partagez le pain et les poissons » et à nous tous « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger ».
Oh mon Seigneur, donne-moi, je t'en prie, de ne jamais avoir l'indécence de me plaindre par rapport à plus riches que moi. De ne jamais gaspiller cette honte de ceux qui possèdent. Et d'apprendre à mes enfants à ne point gaspiller en leur révélant la valeur du pain et du beurre sur le pain.
Donne-moi la volonté, Seigneur, de chercher à aider concrètement les organismes qui luttent pour le développement du tiers-monde, du quart-monde, au lieu de critiquer, de juger, du haut de ma suffisance, et persuader que la prise de conscience générale du drame de cette partie de l'humanité qui meurt, un jour, obligera les hommes à s'organiser pour le résoudre. Aide-moi à ne jamais me taire, mais à parler, sans cesse, à crier, même si d'autres disent à mon sujet « Son compte est bon ». Amen.
Allez dans la paix du Seigneur Jésus, lui qui était riche, mais pour vous il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Soyez riche pour Dieu. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant avec aujourd'hui le pasteur Philippe De Paul de l'église évangélique libre de France à Deuil-la-Barre. Il était accompagné pour les lectures par Marjorie Legendre, pasteur stagiaire de l'église évangélique libre à Paris, Alésia. Merci à Viviane Noël et à Julien Douminc pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Si vous voulez retrouver cette émission, vous pouvez sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Et si vous désirez recevoir le texte par courrier, écrivez au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. À suivre dans quelques secondes le journal, puis retrouver Marc-Alain Wachnin pour Talmudique. À partir de la semaine prochaine, je vous annonce que vous pourrez retrouver quelques rediffusions du service protestant qui vous accompagneront tout le mois d'août. Bon été à tous.